CO2, mon amour.
Faut parler normalement, alors.
Professionnel.
Bon, bah alors, ok, on reprend depuis le début. Donc, Gallo-Grenant est posté depuis hier soir, on en reste de la zone d'attaque.
Léodagan sud-sud-est, un peu plus en train avec ses cavaliers.
Moi, j'aime pas ces histoires de sud-est, nord-ouest et tous ces machins.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore?
Mais ça a quoi se planter, ça? De toute façon, on dit le nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. Maintenant, Léodagan, il est où?
Du côté de la forêt, un peu après la clairière, où il y a une grosse pierre qui ressemble à une miche de pain.
Voilà! Là, c'est pro! Là, je comprends!
Denis Chessou.
Et quand Gallo-Grenant va arriver, il va couper par où?
Il va couper du côté de la rivière où il y a les brebis qui passent.
Sur France Inter.
Eh ben nous, dans cette émission qui rapproche les humains en nous rapprochant de la nature, eh ben on va faire comme dans Kaamelott, hein. Vous voyez le nord de la France, on va aller à gauche, on va même trouver des brebis et notre page nature sera consacrée au cap. À la technique aujourd'hui, Johanna Gabric, nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et Marion Philippe. C'est Jérôme Boulet qui réalise l'émission et vous dire l'essentiel. Bonjour à tous. Avec une petite humeur pour débuter, un automne qui s'installe, qui souffle sur les braises, qui dit aux feuilles des arbres « Allez, allez, du balai !» C'est la vie des saisons, chacun a fait son temps pour mieux renaître au printemps. Et l'automne, le vent souffle aussi sur les boules de suie. J'explose, je disperse, je ventile et je fais sauter les esprits façon puzzle. Égal, malheureusement, le tableau Lubrizol, mais sans Audiard. Accident, malveillance, bah vous savez, c'est juste la rançon de nos sociétés chimiques que l'on voudrait sans risque. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, vous aviez quelques riverains qui souhaitaient faire déclasser leur lieu d'habitation de la zone rouge dans laquelle ils vivent, car cela fait baisser le prix de leur maison. Un bout de Normandie, du noir aux joues, fabrique sans le vouloir les pommes de la sorcière de Blanche-Neige et charge ses sols, champs, rivières, poissons de petits bouts d'enfer. Mais ne jamais entraver la marche du dit progrès. Alors on autorise facilement l'augmentation des capacités de stockage de matières dangereuses sans véritable étude d'impact complémentaire. Et en septembre 2018, il y a un jour de grève qui est passé, mais alors merveilleusement inaperçu, c'était celui des inspecteurs de l'environnement et des sites classés. Et ils nous disaient « Attention, on n'est pas assez nombreux pour remplir nos missions de contrôle. » Alors oui, dans le prochain budget de l'environnement, oui, il y aura plus de moyens financiers, mais moins de moyens humains. C'est ça, nos vies en 2020. Alors du positif, bon, on en a, parce qu'après la pollution, il y a aussi la dépollution. Et là, on rend hommage à ceux qui passent à l'action. Un mouvement d'ailleurs qui n'est pas récent, mais qui prend une heureuse ampleur. Alors ils prennent sur leur temps de loisir pour se rendre utile. Là, je vais vous parler de l'association Mountain Wilderness, avec les éco-gardes du parc naturel du Verdon, qui repèrent les saloperies balancées, évidemment par hasard, ou charriées au fond des gorges. Et là, ça a été, là, le week-end dernier, un vrai vide-grenier, hein, pour eux, des pneus, des moteurs, des matelas, des cuvettes de toilettes. Que sais-je. Et les 30 bénévoles ont sorti près de 4 tonnes. Ces chantiers ont lieu, on le sait, un peu partout, des gorges du Verdon, jusqu'au quartier dit sensible. Et là, vous avez une foule de fourmis civiques qui prennent, qui viennent vraiment dans l'enthousiasme jouer les super petits héros du nettoyage de la planète. Alors vous allez me dire, tonneau, un poil des Danaïdes, oui, peut-être, mais peu importe. Il s'agit de faire et de faire toujours. Je ne sais pas si la beauté sauvera le monde, mais nettoyer les fientes des autres, embellir, aide à nous élever assurément. Alors avant de partir dans le Pas-de-Calais, donc du côté des Caps, notre mot de l'environnement avec une définition, avec un animal qui n'est pas végétarien. Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour Denis Chessou.
On va parler du loup, parce que quel autre animal que le loup pourrait incarner la complexité, la confusion et même l'ambivalence, hein, des relations qu'on a entretenues et qu'on entretient toujours avec la nature?
Disons-le d'emblée, Denis, cette chronique lexicale consacrée au loup n'est nullement destinée à faire enrager les bergers. Il n'est pas difficile de compatir à la colère et plus encore à la peine que peut ressentir un berger découvrant au matin le carnage réalisé par une meute de loups. Et contrairement à ce que peut s'imaginer le vegan de base, le berger aime ses animaux, par définition de façon différenciée, même s'il les destine à la bouche.
Moi, je pense à mon ami Pascal Labbé dans les Hautes-Alpes, hein, du côté d'Embrun, et qui les soigne toutes. Alors, il peut même les couvrir d'affection. Hein, et il a une relation quand même assez marquée. Alors, de toutes nos histoires d'animaux, celle avec le loup est de loin quand même la plus ancienne.
Seulement qu'on puisse dire, le loup a été le premier animal domestiqué et sa domestication pourrait remonter à 40 000 ans, soit un cinquième de la durée probable d'Homo sapiens. Il y aurait ainsi un lien très ancien et puissant entre le loup et nous, et un lien pour le moins ambivalent.
Alors c'est là qu'on peut s'interroger, lequel des deux a en réalité domestiqué l'autre, hein ?
Effectivement, nos aïeux ont soigné, protégé, nourri leur loup en devenir de chien, bien avant d'avoir domestiqué des animaux destinés à la boucherie. Pendant des lustres, les chasseurs paléolithiques ont ainsi dû partager avec leur loup le butin de leurs expéditions de chasse. Et jamais les loups n'ont à leur tour été mangés.
Oui.
Qui a domestiqué qui ? Lequel a été au service de l'autre, Denis ?
Alors, l'idée s'est désormais imposée que les êtres humains ne sont pas les seuls animaux culturels.
Le cas du loup est même exemplaire. Ses relations avec nous ne cessent de changer au gré du temps et de l'espace. Dans un film documentaire des années 80, Un homme parmi les loups, on voit un éthologue, Tyler, s'installer dans le Grand Nord auprès d'une meute de loups en marquant son territoire par son urine. Perplexe tout d'abord, les loups l'acceptent, urinent à leur tour et ne pénètrent plus le territoire ainsi délimité.
Alors c'est ce qu'a fait donc récemment aussi Jean-Michel Bertrand dans son formidable film La Vallée des Loups. Alors si on voit dans les fabliaux, si on regarde Isengrin qui était quand même un compagnon et un souffre-douleur de Goupil le renard, qu'est-ce qu'on peut dire ?
C'est pour le moins vrai, Isengrin est décrit comme aussi stupide qu'inoffensif. Isengrin n'a rien d'un mangeur d'hommes et autres dévoreurs d'enfants. Comme le souligne l'historien Michel Pastoureau, avant les 14 et 15e siècles, il n'est aucune trace de loup ennemi du genre humain. C'est probablement l'effondrement de la productivité des écosystèmes avec l'entrée dans le petit âge glaciaire et plus encore les charniers de la guerre de 100 ans qui ont conduit la race lupine à prendre goût par opportunisme à la chair humaine.
Alors, il est choyé, admiré, honni, massacré, ce loup fasciné que nous sommes les uns et les autres. Il cristallise plein de choses.
Il cristallise en fait les facettes multiples et contrastées des relations que nous nouons avec la nature elle-même. Il est aujourd'hui quelque 500 loups en France, un symbole ténu, Denis, d'une réconciliation en cours.
À bientôt Dominique Bourg. Allez maintenant, venez respirer, je vous emmène du côté des capes, oui, du côté du Cap Griné et du Blanc-Nez.
J'aime être stone avec toi, j'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des ragoûts de nous, des soupes de nous, des burgers de nous. Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier? Pourquoi? Moitié plastique qui veulent te
Alors effectivement, si comme Philippe Catherine, vous voyez des hamsters de 130 kilos, c'est que vous êtes gentiment stone. Et sur France Inter, dans CO2 Mon Amour, eh bien nous remplissons notre herbier de paysages. Aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais, au Pays des Caps, on est quasiment dans un film de Bruno Dumont.
On a deux caps qui, c'est vrai, se regardent, mais qui sont dans des orientations un peu différentes. On a le cap Blanc-Nez qui est tout en verticalité, ouais. Et cet effet est vraiment rehaussé par l'obélisque qui tire en pointe comme ça vers le ciel avec cette falaise blanche et abrupte. Tandis
cet obélisque, quand même, ça nous rappelle la guerre. Hein,
c'est oui.
Ça.
Bah oui, c'est un hommage à la patrouille de Douvres, voilà. Qui veillait sur le détroit. Et puis, on a de l'autre côté le cap Grinet qui, lui, est comme un morceau de terre, un membre de la terre qui essaye de s'étirer comme ça vers la mer. Il est beaucoup plus dans l'horizontalité. Et on a l'impression qu'il voudrait aller chercher l'Angleterre, mais sans jamais y parvenir. Et voilà, ces deux caps, on a deux effets assez contraires entre la verticalité et l'horizontalité de l'autre.
L'homme qui parle bien de ces lieux s'appelle Sébastien Mézières, du Parc des Caps et Marais d'Opale. Alors je vous emmène dans ce pays où le viking a déposé ses dieux, ses drakkars, ses enfants blonds. Est-ce un nez, un promontoire? Est-ce une péninsule? Eh bien non, c'est un cap, et même deux. Deux qui sniffent la mer et le ciel du Pas-de-Calais. Gardien de la Manche, les caps Blanc-Nez et Cabrinet voient passer 600 navires par jour, mais bien plus d'oiseaux dans ce ciel qui est fait pour la migration. Voilà. Alors, je vous emmène dans cette histoire géographique écrite à la craie sur un tableau bleu. Et d'abord, sur cette craie du cap Blanc-Nez, Lorraine Pascal, qui est une bergère de 25 ans. Bon, heureusement pour elle, elle n'a pas de loup. Hein, au moins, elle est tranquille de ce côté-là, avec plus de 600 bêtes là, devant nous. Bonjour Lorraine Pascal.
Bonjour Denis.
Alors là, faites une belle présentation.
Alors là, c'est Opal, qui a 6 mois. Ça, c'est ma chienne.
Oui.
Ensuite, ici, il y a Masai, qu'on me prête pour la saison. Et là-bas, il y a Zouzou, il y a Zoumaï, qui a 11 ans cette année. C'est sa pré-retraite ici sur le Pas-de-Calais.
Ah ouais, c'est pas mal.
Voilà.
Alors, on fait attention à chaque fois de bien remettre les barrières. Allez, passez. Et hop. Comment on fait quand on est originaire de l'Isère, de Bourgoin-Jallieu, puis qu'on arrive ici? C'est quoi le chemin pour vous, Lorraine?
Quand j'ai fait ma formation de berger, j'avais vraiment l'intention de trouver un endroit où je peux faire pâturer dans un but de restauration des pelouses calcaires.
Ouais.
Ou autre, enfin restauration du milieu quoi, par le pastoralisme et les brebis. Et du coup j'ai un peu cherché sur internet et donc j'ai trouvé ça ici sur le cap Blanc-Nez avec Eden 62.
Alors Eden 62, on va dire, ce sont donc les gestionnaires de ces espaces sensibles. On est sur un terrain du Conservatoire du Littoral.
Oui.
Donc eux, ce sont les propriétaires fonciers, hein, c'est vraiment leur travail. Hein. Et c'est donc Eden qui gère les lieux, donc, et en mettant aussi des bergers comme vous.
Voilà, c'est ça. Donc ça fait maintenant la 8e année, 9e année, je crois bien, qui mettent des brebis ici sur le cap Blanc-Nez, ouais. Avec un berger.
Alors donc on a des boulonnaises.
Oui.
Facile à retenir ici.
Voilà, race locale qui est assez typique. On peut voir qu'elle a les oreilles assez foncées, les muqueuses noires, le tour des yeux noirs, le museau aussi, la langue violette, ouais. Et les sabots noirs aussi. On est aussi sur une race bouchère. Donc on est après sur un gabarit à peu près de 60-70 kilos sur les brebis,
ouais.
Et largement plus sur les béliers.
Bon, alors là, il faut jouer, parce que ça fait déjà deux fois que j'envoie le bâton, votre chien.
Bah, soit vous jouez, soit vous, si vous voulez être tranquille, vous l'ignorez.
Allez, ouais, je vais pas l'ignorer, hein. Hop! Vas-y! Alors là, on voit un petit lac. Ça, c'est très intéressant, parce que donc, sur ce cap Blanc-Nez, on a du calcaire, on est sur de la craie. Et là, ce petit lac, en fait, c'est le résultat du percement du tunnel sous la Manche.
Voilà, c'est ça. C'est les remblais du tunnel. Et donc ici, c'est le lac du Fompignon.
Ouais.
Et ça fait aussi partie de mes endroits où je vais faire manger les brebis.
Ouais.
Ici, c'est un endroit que j'ai plutôt fait manger au mois de juin, mai-juin.
Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de pastoralisme, on parle de quartier.
Voilà.
En fonction donc de l'épuisement, on va dire, de la ressource qui est l'herbe.
Alors plutôt en montagne, on parle de quartier en fonction de l'altitude.
Oui, pardon.
Et ici, on va dire que j'utilise mes quartiers en fonction de la ressource en herbe pour éviter le surpâturage.
Ouais. On rappelle qu'on est sur un milieu fragile. Hein.
Tout à fait, les pelouses calcaires, c'est extrêmement sensible et il faut vraiment faire attention au pâturage. C'est bien d'en avoir, mais mesurément. Quoi.
Le but, bien sûr on fait de la viande, mais c'est quand même l'entretien du paysage.
Voilà, ici le but c'est vraiment l'éco-pastoralisme, hein, l'éco-pâturage. Et l'entretien des pelouses calcaires par le pastoralisme et le pâturage.
Si on laissait ces pelouses faire, ce serait quoi le paysage ?
Bah, je pense qu'ils se refermeraient naturellement. En fait, on voit qu'il y a, voilà, sur les Noires Mortes, c'est envahi de pruneliers, d'aubépines. Et on voit à côté qu'elles commencent tout doucement à reprendre possession des lieux. Et du coup, ici, avec le pâturage, on va limiter l'expansion de ces espèces-là, arbustives. Ouais. Parce que les brebis aiment bien manger les jeunes pousses de prunelliers et de bépines.
Et si nous avons donc, Lorraine, des plantes ici qui s'épanouissent, c'est aussi grâce aux brebis.
Oui, le but, donc la réouverture de milieu, des arbustes, mais aussi des plantes herbacées, on va dire. Sur les pelouses calcaires, pousse majoritairement le brachypode peiné. Qui a totalement pris la dominance sur les autres cortèges floristiques. Mmh. Et le but du pâturage, par le piétinement, par les crottes aussi, et par le fait qu'elles broutent, on a des plantes à fleurs un peu plus intéressantes, type orchidées, voilà, des espèces protégées d'intérêt écologique plus important qui se développent.
On en est où pour le bâton, là ? Zoumaï, voilà. Hop là ! J'étais inquiet, ça faisait 45 secondes que tu n'es pas venu. Donc, Alors, lorsque l'on est ici, on peut s'endormir en comptant les moutons, les brebis. Et quand on est une brebis, on s'endort en comptant les bateaux.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est... en comptant le passage des ferries.
En comptant le passage des ferries, et puis quand même sur cette voie maritime incroyable, puisque c'est une des plus fréquentées du monde, qui est là, donc sur ce cap Blanc-Nez. Alors, ce qui vous plaît, vous, ici ? Vous, la fille, on va dire, de Bourgoin-Jallieu. Enfin, c'est bien, genre, de vous être transplantée, mais vous êtes un peu chez vous, maintenant.
Oui, ouais, j'ai pris mes aises cette deuxième année, j'ai l'impression d'être chez moi. Ah. C'est la première fois que je reviens une deuxième saison au même endroit. Et c'est agréable de revenir sur un endroit sur lequel on a déjà fait pâturer, on connaît pratiquement toutes les brebis, enfin, on reconnaît le troupeau. Les endroits aussi, on n'a plus trop de surprises sur les endroits où elles peuvent... passer ou nous filer, quoi. On arrive un peu moins stressé quand même.
Comment elle est venue cette vocation ?
À la suite d'un BTS GPN, gestion protection de la nature, j'ai fait une licence pro sur la montagne et le pastoralisme en Ariège. Et c'est là qu'on a vraiment abordé le pastoralisme et j'ai vraiment senti un truc qui me plaisait là-dedans. Suite à ça, j'ai fait donc une formation professionnelle de berger de transhumant à l'école du Merle à Salon de Provence. Mmh. Donc là, c'était une formation pour devenir berger salarié à l'année. C'est un an de formation, 6 mois de stage, 6 mois de théorie. Au bout de 3 semaines, on arrive là-bas, on est déjà en fait chez les éleveurs à faire l'agnelage. Puis après, s'enchaîne la saison, la garde en colline, puis la montagne.
Oui, donc c'est très pratique. Hein. C'est-à-dire vous quittez vos études immédiatement, de toute façon,
oui.
Vous travaillez. Hein.
C'est oui, comme ça. Ouais, y a du boulot hein, dans le métier de berger, il n'y a pas de problème.
C'est le bélier qui fait un peu peur à Zoumaï ?
Ouais, il lui tient tête.
Ah ouais. Vous en avez combien de béliers ?
J'en avais 13 en début de saison, maintenant j'en ai 8.
Alors là, on maintient la bête.
Oui.
Et là, c'est ce qu'on appelle les soins.
Là, je vais la marquer parce que elle a un peu de pied de mamelle. Et c'est signe que peut-être d'ici 3 semaines, elle va annuler. Et donc, on va peut-être anticiper son départ avec les éleveurs.
Elles ont leur étiquette sur chaque oreille.
Voilà, le premier chiffre indique l'année de naissance. Donc là, c'est 6, donc ça veut dire qu'elle est née en 2016. Et ensuite, le numéro du tu, c'est le numéro d'élevage.
C'est ça. Voilà. Et votre numéro de carte bancaire, vous ne mettez pas là, quoi.
Non.
60-825, on va vous aider. Hop.
Et voilà, c'est une brebis à Monsieur Machand. Parce que j'ai 2 éleveurs différents ici dans le troupeau. Il y en a qui sont toutes blanches et il y en a certaines, comme vous voyez derrière, qui sont avec des marques vertes. Donc elles appartiennent à l'autre éleveur.
Alors là, on désinfecte parce qu'il y a une petite plaie.
Oui,
sur le fond.
Voilà. Ils ont dû se taper là tout à l'heure quand ils attendaient dans le parc de tri. Ouais. Comme il y a trois béliers dans l'eau. Donc c'est un peu la concurrence.
Ils ont choisi en fait d'être bergères toutes petites.
Je sais pas, non, je crois pas. Même si c'est peut-être aussi un rêve d'enfant, je crois. J'ai assisté à des transhumances quand j'étais petite dans la Drôme, là, du côté de Die, et ça m'a toujours passionnée.
Ouais, donc au pied du Vercors, dans le Diois.
Voilà, et puis en plus après avec mon père, on allait souvent rendre visite à des bergers en montagne, et je pense que bah, déjà lui, il m'a transmis la passion de la montagne, et puis après la passion des brebis est venue en formation. Quoi.
Lorraine, vous les comptez tous les jours?
Non, pas tous les jours, c'est régulièrement, en principe tous les 15 jours, 3 semaines environ. Mais en fin de saison, je les compte plus régulièrement parce que chaque année, bah, y a quelques vols quand même de brebis. Donc,
Ah, il y a des gens qui piquent les brebis.
Ouais, malheureusement. Donc voilà, comme on est sur un site quand même qui est touristique, où il y a beaucoup de passages, on n'est pas à l'abri.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les gens dans le coffre, ils repartent avec une brebis en souvenir, quoi. C'est...
Ouais, apparemment. Du coup, là, on va rentrer les brebis au parc de Nuit.
Ouais.
Elles vont aller boire et prendre un peu de sel. Et puis ensuite, je vais les ressortir cet après-midi.
Lorraine, je vais vous laisser donc avec vos bêtes et vos trois chiens qui vont très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Donc une bonne fin de saison, jusqu'à quand?
Jusqu'entre le 15 et le 31 octobre.
Ouais.
Et puis ensuite, un peu de repos et après, on rembauche au mois de mai.
Je vais rejoindre Sébastien Mézières. Je crois que c'est en face, hein, c'est ça, où je me retrouve. Parce qu'on a le Cap Grinet, on va en parler. Et puis là, c'est
en face, c'est le Mont de Couple. Voilà.
Le Mont de Couple.
Ouais,
ah, allez. À bientôt, Lorraine.
À bientôt, au revoir. Massaï, viens ici.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blan. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Até hoje eu danço esse calor.
Ah, Alors là, on a fait le grand écart. Hein. De la Manche, on traverse l'Atlantique, on est arrivé à Salvador de Bahia avec Luca Santana.
CO2, mon amour.
Ah, entrez, monsieur Milos, je vous en prie, asseyez-vous dans ce fauteuil.
Je suis berger. Dites-moi un peu ce qui ne va pas.
J'aime d'amour une brebis.
Je vous demande pardon.
Denis Chessou.
Je suis tombé amoureux d'une brebis.
Sur France Inter.
Mais ça arrive à des gens très très bien, si si, je vous assure. Donc nous allons quitter Lorraine Pascal et Eden 62 et on va se retrouver avec un homme. Voilà, alors il y a toujours de l'iode, hein. Faut imaginer qu'on a de l'iode quand même un peu partout. Sébastien Mézières, on va le retrouver. Nous sommes sur un grand site de France hein, quand même, label de l'État assez exigeant avec ses caps. Et si on prend les falaises, les estuaires, ben là vous avez 80% des espèces animales et végétales recensées dans les Hauts-de-France qui sont sur ce lieu. Changement de lieu, on n'est pas loin, hein, quelques kilomètres. Et Sébastien Mézières m'a dit qu'il était dans une zone de plantes mellifères. Le voili, le voilou. Bonjour Sébastien.
Bonjour Denis.
Alors Sébastien, vous appartenez à ce parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. 153 communes donc aujourd'hui. Là vous êtes en train de regarder donc ces plantes, ce qui est quand même un garde-manger assez rare aujourd'hui pour les abeilles, les bourdons et tous les pollinisateurs.
Voilà, nous sommes en présence de belles stations de succis des prés. Alors ça donne en automne comme ça des teintes violacées sublimes. D'ailleurs, il y a un mont dans le Boulonnais qui porte le nom charmant de Mont Violette. Oui. Bah, en cette fin de saison, c'est une ressource fondamentale pour plein de pollinisateurs, dont certaines reines de bourdon qui s'apprennent à passer l'hiver, qui vont se recharger, comme ça, se ravitailler, un dernier ravitaillement avant les grands frimas. Et bah, on voit aussi que bah, les derniers papillons là, sont en train de s'épanouir ici. Donc, il y a vraiment... une station pétale par opposition à la station totale qui est pas très loin d'ici.
Oui. On va la laisser à sa place, bien sûr. Nous sommes sur ce mont de couple. Le nom, d'où il vient ?
Étymologiquement, ça renvoie plus à des origines flamandes ou germaniques, donc cop, la tête, la colline, le sommet, comme le Koppenberg par exemple, donc couple, cop. Oui. Mais beaucoup de gens qui visitent les lieux ont une approche un peu plus poétique. Alors souvent, ils évoquent un endroit pour les amants, un lieu de rencontre. On évoque aussi bah, cet endroit qui est un balcon juste exceptionnel pour observer le couple des caps, le cap blanc-nez.
Ah oui.
Et puis le cap griné.
Parce qu'on est vraiment entre les deux. Hein.
Voilà, on est exactement entre les deux. C'est un balcon, c'est un promontoire qui donne sur ces deux caps et puis qui offre un panorama juste sublime sur cette terre promise, sur les côtes anglaises qui nous semblent si proches. 28 petits kilomètres séparent ces côtes de nos côtes depuis le cap griné.
Ouais. Ah, ce cap griné, parce que du grès et de l'argile, hein, c'est ça qui donne la couleur.
Oui, c'est ça, hein, le cap griné, grès-argile, à peu près 150 millions d'années. C'est vrai que résumer 150 millions d'années en quelques minutes, ça serait très très difficile.
Ah non. Bon, on va dire qu'il était du Jurassique,
voilà.
Et que l'autre, il est du Crétacé, et tout
voilà.
Va bien.
Hein. Et voilà, avec ses craies blanches, et on va découvrir toute une stratification qui va se caractériser par des fossiles qui nous permettent de dater, comme ça, les différents étagements de craie dans lesquels on va retrouver aussi des marnes, et qui donne cette couleur.
Alors ce cap-là a une peau quand même assez grêlée, ben, on s'en doute bien, donc c'est des trous d'obus qui sont restés, et puis on a des blocos qui sont mais vraiment juste à côté, et on se dit quand même, bah, c'est-à-dire que la nature là aussi elle reprend ses droits.
Oui, c'est toute la symbolique de ces lieux comme ça qui servaient d'observatoire pendant la guerre de promontoire pour les militaires, et un site qui a subi les pires périls que l'humanité a traversés se voit aujourd'hui reconquis par la nature qui a horreur du vide et qui reprend sa place. Alors les chauves-souris se sont installées dans les blocos,
ouais.
Et les trous de bombe offrent une place privilégiée pour toute une flore vraiment typique qui, par projection de la craie quand tout ça a explosé, a permis l'implantation d'une petite flore liée au milieu un peu plus sec. On va retrouver du thym par exemple, on va retrouver des petites végétations assez odorantes et qui se sont épanouies dans ces trous de bombe. Et y a un beau symbole par rapport à ça, plus de 70 ans après, que d'envisager de ce qu'on a pu commettre de pire. On n'a pas vécu Tchernobyl, mais on a eu des bombes partout qui sont passées ici. Et la nature arrive à retrouver sa place peu à peu.
Quand on est ici, on se dit qu'on n'est pas simplement face à une vue sur la mer. C'est-à-dire qu'on a toute l'épaisseur en fait d'un territoire qui est fait de vallons, de marais, de dunes un peu plus bas, de falaises, quoi. Et alors sa vie, là, c'est aussi le couple homme, ciel, mer, quoi.
C'est tout à fait ça, Denis. On est vraiment à la croisée des éléments entre ciel et terre, entre terre et mer. Alors aujourd'hui, on a un ciel parfaitement dégagé, mais il faut le représenter par une procession de cumulus quand tous ces nuages arrivent de la mer et qui passent au-dessus, comme ça, de cette grande plaine qu'on distingue en dessous de nous, dont les ombres défilent sur la plaine. Et puis, à côté de ça, quand on arrive en période de moisson, le vent crée des ondulations sur les champs qui dessinent des vagues et qui viennent répondre aux vagues de la Manche.
Sébastien Mézières, pour revenir quand même sur ce parc naturel régional, hein, donc des Capes et Marais d'Opale, votre rôle c'est à la fois d'assurer, on va dire, un développement de l'environnement, de la protection, de la pédagogie. Concrètement, comment ça se passe ici? Quelles actions on fait là?
En fait, un parc est à la croisée des patrimoines, hein. On va s'attacher au patrimoine architectural, au patrimoine historique, au patrimoine naturel, au patrimoine agricole. Et le Mont de Coupe est un beau concentré de parcs, on peut dire.
Ouais.
Ah tiens, une petite maison genonnette qui nous rend visite. Excusez-moi, Denis.
Mais une belle du tout.
Voilà, qui est allée se nourrir de.
Qui ressemble justement à une petite nonne, c'est pour ça qu'on l'a.
Oui,
comme ça,
oui. Avec sa petite calotte noire, ben voilà. Comme ça, elle est venue chercher des graines sur les chardons. Parfois c'est mal aimé, mais on s'aperçoit, que ce soit pour la nonnette ou le chardonneret bien nommé. Comme
tout à sa place.
Voilà, là, voilà. On la voit en train de ouais, nourrir et de participer à sa manière un peu à la dispersion du chardon. Ah ouais. Elle n'a pas l'air dérangée par, effarouchée par notre présence. C'est un beau moment là qu'on vit là, tout simplement. Ça y est, ça veut dire qu'on fait corps avec le site et que les animaux se sont accommodés de notre présence et ça, c'est bon signe. Ouais.
Alors là, on est remonté quand même au Jurassique et au Crétacé, mais on se dit que on est là sur un stock en fait de sédiments quand la mer était là. Voilà. Et ce stock, il n'est pas infini. Et puis, on a l'érosion, on a le réchauffement. Il va y avoir des coups de baston qui vont être différents. C'est quoi les périls ici?
Les périls, ils sont multiples. Alors, le premier d'entre eux, cette année particulièrement sèche, il se trouve juste à côté de nous. Là, on a presque une aubépine qui nous tend sa branche.
Oui, elle est un peu subclaquante.
Voilà, et elle est très très défoliée. C'est la première année réellement où je vois de manière aussi subite les aubépines perdre leurs feuilles. Elles souffrent vraiment de sécheresse, elles crèvent de soif. Et ça s'est passé en un an. Que sait-on de comment elle pourra repartir l'année prochaine? Voilà, un premier péril immédiat. Donc on se pose beaucoup de questions, par exemple sur l'acidité des pluies. Nous sommes bien sur un coteau calcaire, on en parlait tout à l'heure avec le cap Blanc-Nez, hein, donc voilà, de la craie. Et pourtant, on a constaté des poches d'acidification dont on émet l'hypothèse qu'elles seraient peut-être liées
à des pluies acides,
aux pluies acides, oui, voilà, dont on parle plus forcément. Voilà, c'était un sujet plutôt contemporain il y a 15-20 ans, mais qui reste toujours d'actualité. Et aujourd'hui, Vlatipa, qu'on a de la calune, donc une sorte de bruyère. Qui est plutôt liée aux landes acidophiles et qui apparaît comme ça sur des poches vraisemblablement
parce que acidité.
Donc des poches de décalcification, de perte de calcaire. Alors, une autre question, c'est l'agent d'Europe, une légumineuse qui a cette capacité à fixer l'azote atmosphérique dans ses nodosités. Et on a vraiment une progression, là, depuis une vingtaine d'années, de cet agent d'Europe. Et on s'interroge sur le lien entre l'augmentation de l'azote atmosphérique et l'expression démultipliée de ces agents qui deviennent parfois très couvrants sur ces pelouses au détriment de toute la flore patrimoniale.
Peut-être que dans 50 millions d'années, on sera pas là, le trait de côte sera différent, comme il a toujours été, hein, ça a toujours bougé, hein, le trait de côte, de toute façon.
Il faut vraiment se projeter bien au-delà de nos petites villes par rapport au temps géologique. La Terre va poursuivre son processus, ce processus de décalcification, s'il s'amplifie, s'il s'élargit. Dès lors que notre craie ne sera plus alimentée de ce qui l'a produite il y a 90 millions d'années, peut-être que ces coteaux vont évoluer par décalcification vers des landes acidophiles et on peut présager peut-être d'avoir des paysages complètement différents qui seront violacés comme avec notre succès, mais là plutôt recouverts de bruyères et de calunes.
Alors il y en a qui ne sont pas décalcifiés, là ce sont les vététistes là, qui montent, alors ils font un peu des ornières, voilà. Puis aussi quand même le touriste. Ah, alors là, est-ce qu'il n'y a pas non plus un surpâturage?
Oui, c'est vraiment un gros enjeu que d'arriver à canaliser sur des sites aussi prisés
le camping-car et le SUV.
Voilà, et puis à côté de ça, de permettre l'expression de la biodiversité. Alors, c'est vrai que ça a des mauvais côtés, par l'érosion telle qu'on a pu la voir, où voilà, on a une craie complètement piétinée, plus rien ne peut pousser là-dessus. Et puis, par contre, sur les franges, ça recrée des milieux un peu plus rares qui vont être beaucoup plus favorables à cette plante qui s'appelle la gentiane d'Allemagne et qui, justement, de temps en temps, tire profit de manière mesurée de ce piétinement. Alors, c'est bien involontaire de la part des touristes, mais on a parfois des...
Touristes créateurs de biodiversité, malgré le reste.
Oui, tout à... en n'oubliant pas l'hypothèse de nous ramener de temps en temps peut-être des graines venues d'ailleurs et qui ne seraient pas forcément désirées ou parfois qui seraient plus souhaitables.
Sébastien, juste avant de se quitter, qu'avez-vous envie de dire pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce lieu, puisque nous sommes donc sur ce monde couple, exactement entre le Cap Griné et le Cap Blanc-Nez?
J'aimerais que les gens qui gravissent le monde couple, en partant du bas, pensent peut-être à leur peine et qu'arrivés en haut, ils puissent les y laisser. Dans un moment de contemplation, en face de nous, on a les côtes anglaises et pourtant, la mer semble s'affranchir des frontières comme ça. Et j'aimerais que les gens, une fois qu'ils auraient déposé leur peine en haut, redescendent, j'espère, un peu plus humains au regard de cette terre promise.
Merci à vous Sébastien Mézières. Donc une couleur supplémentaire dans notre herbier de paysage avec ce parc des Caps et ce grand site de France.
Vous avez une campagne ?
CO2 mon amour ?
Oui jeune homme.
Avec une maison dessus ?
Oui jeune homme.
Je parie que cette maison est en mauvais état.
Oui jeune homme.
Alors écoutez, votre campagne, moi je vous la remets à neuf.
J'ai horreur du neuf.
Denis Chessoux.
Non mais je veux dire que je vous la remets en état, tout !
Sur France Inter.
Tout !
La citation de fin, comme d'habitude, dite par Jacques Bonafé.
Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Léopold Sédar Senghor.
Et aussi éventuellement Saint-Exupéry, parce que tout ceci donc se discute. Merci à Johanna Cabric à la technique, à Camille Blanès, à Marion Philippe et Jérôme Boulet qui a réalisé l'émission. Et je n'oublierai pas Alexandre Chenet qui a mixé ce reportage. La semaine prochaine, nous serons en compagnie de Sylvain Tesson. N'oubliez pas le Twitter, hein, tout simplement, chez Sou. Je vous souhaite un excellent week-end.